Je m'appelle Julie Valade, je suis née en 1985 dans un petit village du Luberon, Cabrières d'Avignon exactement, et où j'ai passé donc mon enfance. Après quelques études à Avignon et à Montpellier, j'ai été dans des colocations d'artistes avec lesquels on s'est mis en recherche d'acheter une maison pour développer un projet culturel. Donc nous étions tous assez branchés écologie et terrain sans pesticides. Donc nous avons cherché dans les Alpes de Haute-Provence, la Drôme et le Tarn, où il y avait donc des habitations que nous pouvions acheter avec nos petits budgets et dans des terres qui étaient très vierges de tout ça, avec un bon air et une bonne terre. Je me suis retrouvée donc en 2011 à acheter un petit cabanon que je retape toujours en maison aux Omergues, donc au tout début de la vallée du Jabron. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans le coin des Baronnies en Drôme provençale. Je me suis mis en quête donc de personnes avec qui collaborer dans la vallée du Jabron pour développer un projet culturel avec les amis avec qui j'avais acheté ils avaient acheté une maison à côté. Et il s'est trouvé que rapidement c'était un peu compliqué dans la vallée du Jabron, bien que j'ai commencé à faire quelque chose. Mais en 2013, je suis venue sur Montbrun, comme je venais régulièrement faire mes courses, etc. Et je suis allée poser des curriculum vitae pour faire de la restauration, dans un premier temps. Et je suis tombée sur Dominique de Bortoli, qui dirigeait le Café des Tilleuls et qui avait une salle de concert en dessous. Quand il a vu mon CV, qui était donc déjà pas mal riche d'expériences culturelles et artistiques, il m'a dit « Écoute, moi je suis pas intéressée de te prendre comme serveuse, mais par contre, viens voir en bas, je pense que ça va t'intéresser. » De là, donc, c'était l'été 2013, on a commencé une collaboration, on a monté un espèce de café-concert qui avait lieu tous les jeudis soirs de l'été 2013. Donc voilà, moi je travaillais en restauration à la pizzeria le reste du temps, et puis le jeudi c'était mon jour de congé, et j'organisais des concerts de diverses sortes au Café des Tilleuls. C'est comme ça que l'aventure de Nounsi a commencé à Montbrun-les-Bains. Alors moi je suis au service du lien entre les personnes. Mon but ultime c'est la paix. Donc, comme mon but ultime, c'est la paix, j'ai cherché dans ma vie à, sans en prendre vraiment conscience jusque-là, à réunir les gens autour de propositions qui allaient soit leur permettre de discuter, d'échanger, et aussi de trouver des communs plutôt que de s'axer toujours sur leurs différences. Donc, la culture est arrivée assez tôt dans ma vie comme quelque chose qui réunit des populations autour de pensées communes, autour de territoires communs, autour d'esthétique, enfin plein de choses. Donc pour moi, la culture est ce qui réunit une population autour de valeurs communes, on pourrait dire. Voilà. Donc ce but, donc œuvrer dans l'artistique et le culturel, pour moi, c'est vraiment je ne le fais pas de l'art pour l'art, puisque je ne suis pas artiste, mais je le fais au service du lien social pour permettre aux gens de se rencontrer et d'ouvrir de nouvelles fenêtres dans leur vie, voilà, dans la vie individuelle et collective.
Oui, mais et comment ils répondent ici?
Alors donc sur les Hautes-Baronnies, ben on a une démographie, on va dire, on a une population qui est assez diverse, mais qui peut être assez scindée, avec toute une population qui habite ici depuis longtemps, donc les vieilles familles qu'on trouve souvent en ruralité, donc au niveau agriculture notamment. Il y a toute une partie, une autre population qui est arrivée plus tard, dans les années 70, pour justement aussi développer un autre type d'agriculture et qui était plus fervent de culture au sens aussi artistique, parce que ce sont des personnes qui venaient aussi pas mal des villes. Et on a aussi maintenant, depuis le Covid notamment, des jeunes qui arrivent, donc ça c'est tout récent, donc on commence à en voir un peu les effets, mais des jeunes qui arrivent, qui ont quitté les villes et qui eux aussi sont fervents de culture. Alors comment ces types de populations reçoivent on va dire l'offre culturelle, ou en tout cas l'offre culturelle au service du lien social, ben ça dépend. Il y a des personnes qui n'ont jamais eu de pratique culturelle, ni en tant que spectateur, ni en tant qu'artiste, donc qui n'ont pas forcément besoin de ça dans leur vie. Donc pour eux, c'est plutôt... c'est neutre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas spécialement d'intérêt, mais ils n'ont rien contre, a priori. Mais ils ne voient pas forcément comment eux pourraient aussi rentrer en lien avec les autres populations de leur territoire. Après, il y a des personnes qui sont ferventes de culture et de spectacle, notamment, donc elles reçoivent plutôt d'un bon œil, elles le reçoivent avec joie, le fait d'avoir un territoire animé et puis aussi d'avoir des propositions qui leur permettent de se nourrir et de rencontrer d'autres gens. Et puis, on a aussi, après, des personnes qui... ont besoin de liens sociaux, ne sont pas forcément sur des sujets culturels, ne sont pas forcément spectateurs, ils ne vont pas en ville pour aller voir des spectacles, etc. Mais qui sont très friandes de pouvoir rencontrer d'autres personnes sur le territoire, également pour se nourrir.
Et c'est quoi que tu fais, par exemple, du cinéma, je sais?
Alors en fait, ça a beaucoup varié. C'est-à-dire que là, ça va faire la 13e année qu'on est sur le territoire. Et donc, ça a vraiment commencé plus avec des propositions qui étaient issues du spectacle vivant, majoritairement musicales. Alors c'est aussi parce que nous n'avons pas d'équipement culturel sur le territoire et que donc faire venir de la danse, du théâtre ou des formes plus importantes était compliqué. Donc il y a eu toute une grosse dizaine d'années où c'était axé vraiment spectacle vivant, avec des concerts de chansons, de jazz, des stages de pratique amateur, des stages de chant, des ateliers aussi de pratique artistique plastique. Enfin, on a essayé tout un tas de petites choses. Et puis récemment, on accueille le cinéma itinérant de la Fédération des œuvres laïques. Donc ça, c'est tout nouveau, ça date de octobre 2024. Donc effectivement, on a un cinéma qui vient chaque mois dans la salle des fêtes de Montbrun. Et la sélection est faite par les habitants et ma collègue Elsa également. Et donc, on a choisi d'axer vers un cinéma qui n'était pas forcément du... comment on appelle ça, blockbuster, parce qu'on s'est dit que ici justement, nous en tout cas, ce qu'on portait, c'était une vision de l'action culturelle qui ouvre, qui amène des choses nouvelles que les gens n'ont pas vues ici. On a toujours fait ça en fait. L'idée, c'était d'apporter ici ce qu'on ne voit pas ici. Et donc, le cinéma grand public. Bon, les gens le voient à la télé avec leurs DVD, avec leurs abonnements. Maintenant, en 2026, il n'y a plus beaucoup de freins pour voir du grand public. Par contre, du cinéma un peu plus exigeant, ce qu'on appelle le cinéma art et essai, c'est parfois plus difficile de le rendre accessible pour des gens qui ne se déplacent pas pour faire 30 minutes aller au cinéma, au vrai cinéma de Bulle et Baronnie, qui propose ce genre de programmation notamment. Actuellement, maintenant, en 2026... À travers l'espace de vie sociale, on a vraiment beaucoup des actions purement sociales. Donc ça peut être des pique-niques villageois, ça peut être organiser le forum des associations, ça peut être organiser du glanage de fruits pour faire des jus avec un pressoir mobile, avec les habitants. Et puis on a tout le volet action culturelle qui continue, avec une programmation de spectacles vivants, un festival l'été, les petits bals, le cinéma une fois par mois, et puis de temps en temps, de la pratique amateur. Ça peut être de faire venir un intervenant pour faire un atelier peinture, un atelier chant, un atelier théâtre d'ombre. Et on essaye de faire aussi des spectacles purement jeune public. En gros, c'est à peu près les actions qu'on développe sur les Hautes-Baronnies. L'idée, c'est qu'on n'a pas envie... de faire de l'intellectuel, c'est pas la question, mais c'est plutôt qu'on a envie que les gens puissent se rencontrer sur des sujets authentiques et partager des moments authentiques, qui soient au-delà de comment tu vas, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et est-ce qu'il fait beau ou est-ce qu'il pleut. Donc, parfois, le cinéma très grand public, si on parle du cinéma, ou même si on parle de musique, de faire venir des groupes de reprise, par exemple, moi, on a rien contre les groupes de reprise, il y en a qui le font très bien, mais ça n'apporte pas une nouvelle flamme, et ça n'apporte pas souvent des sujets, des visions d'artistes qui éclairent le monde différemment, parce que ça reste souvent quand même ce qu'on dit, le but d'un artiste, ou en tout cas son utilité aussi, c'est d'ouvrir sur... une façon de voir le monde différente. Et nous, c'est ça qu'on a envie d'amener. On a envie d'amener la rencontre avec un artiste, quand c'est du spectacle vivant, quand c'est du cinéma, ben voilà, avec une œuvre, et qu'ensuite, les gens puissent échanger et faire le lien avec leur propre vie, leur propre pensée, leur propre réflexion, et se mettre en commun pour en discuter, et que chacun y trouve à s'enrichir avec ça.
Ça doit être un peu difficile, j'imagine, parce qu'aujourd'hui, les gens veulent être amusés. Ils veulent se mettre dans leur sofa, dans leur chaise et regarder quelque chose. Hein?
Quelque chose d'un peu ludique et léger. Ben oui, alors ben, je pense que c'est tout l'enjeu de la culture et, en 2026. C'est qu'effectivement, on a toute une actualité internationale qui est très plombante, qui est très anxiogène. On n'a jamais eu, je crois, autant de gens dépressifs ou de gens suicidaires, des gens qui n'en peuvent plus de vivre dans une société qui les maltraite, hein, globalement. Et donc, il faut arriver à la fois à créer des moments de convivialité et à la fois à aborder des vrais sujets sans que ça soit forcément plombant. Et nous, c'est l'axe qu'on a choisi, c'est-à-dire parler de sujets sérieux, mais avec des formes qui ne le sont pas forcément. Comme quand on parle de sujets sérieux, on peut quand même exploser de rire et faire une blague. C'est pas... Et donc nous, c'est ce choix-là qu'on a fait. Organiser des repas pour que les gens puissent aussi discuter de tout, de rien, de leur famille, des enfants, des amis, des voisins. Et puis également, bah, réagir au spectacle qu'ils ont vu, qui peut-être donner à voir ou à entendre des choses sur un sujet un peu plus profond. Ou sérieux, on pourrait dire, mais moi, c'est vrai que le terme sérieux me parle moins. Moi, j'aime bien la profondeur. J'estime que c'est pas forcément sérieux d'être profond. Ça demande un peu plus de calme et un peu plus, peut-être, de réflexion, mais c'est pas forcément sérieux, voilà.
Parlons de l'argent, comment financer tout ça ?
Alors, financer tout ça, ben, quand on est en zone rurale, c'est assez compliqué. Alors, en tout cas, ça l'était, je pense, encore plus avant. Parce qu'on doit admettre qu'il y a des politiques publiques en ce moment qui sont développées vers les territoires ruraux. Donc il y a quand même une prise de conscience, même si elle est minime par rapport aux milliers d'euros qui sont donnés. Finalement, il y a quand même de l'argent qui malheureusement est pris dans les villes. Hein, et c'est pas de l'argent nouveau qui arrive dans les campagnes, mais c'est de l'argent qui est pris chez les acteurs culturels des villes et qui est un peu... on va dire redistribuer chez les acteurs culturels des zones rurales. Mais c'est globalement très compliqué de financer. Donc on fait appel aux opérateurs publics de l'État, de la région, du département. La communauté de communes a des petites enveloppes. Les mairies sont malheureusement sous-dotées de plus en plus. Donc elles ont très peu d'argent à mettre sur le sujet culturel, qui reste un sujet qui n'est pas dans les priorités des habitants. Il faut vraiment avoir en tête aussi ça, c'est la démocratie. Ce n'est pas dans les priorités des habitants. J'ai entendu récemment qu'à Nyon, c'est le 13e sujet. Le 13e sujet sur lequel les habitants se sentent concernés. Donc obligatoirement, même si nous, on sait que ça fait vraiment vivre les territoires, on ne peut pas non plus demander tout l'argent pour ça si les habitants derrière ne le mettent pas non plus en priorité. C'est une lutte chaque jour de trouver des nouveaux financements, puisque maintenant, il n'y a plus ce qu'on appelait avant les subventions de fonctionnement, c'est-à-dire des subventions qui permettaient, sur 1, 2 ou 3 ans, d'avoir toujours la même somme et de savoir qu'on pouvait développer un projet. Maintenant, chaque année, il faut aller chercher, répondre à des appels à projets, remplir des dossiers, remplir des bilans et espérer avoir une somme en face. Mais on ne sait pas. Donc, il faut pouvoir embaucher des salariés, faire tourner une entreprise, parce que même dans le non lucratif, on fonctionne comme une entreprise, c'est juste qu'on ne récupère pas l'argent pour nous, il vient pour le territoire. Mais même quand on fait du service public, il faut avoir une gestion d'entreprise, mais sans savoir si on va avoir l'argent pour payer tout le monde. Et ça, c'est ce qui est plus compliqué, puisque la culture n'est pas un produit à vendre et on n'a pas des recettes sûres et certaines pour chacune de nos manifestations. Et les subventions sont bien entendu une grande part de nos budgets pour pouvoir réaliser tout ça.
Ça t'énerve parce que ta situation personnelle, tu n'es pas riche, tu as des enfants. Mmh.
Alors, c'est sûr que, je vais pas dire ça m'énerve, ça m'épuise. Ça m'épuise parce qu'effectivement, moi j'ai deux enfants, je suis au SMIC, alors qu'effectivement, par rapport à mes compétences et à mon expérience, ben, normalement, je devrais être peut-être au double si j'étais en ville, dans une autre structure qui avait les moyens. Mais bon, j'ai fait le choix de vivre ici justement parce que mes enfants peuvent vivre quand même dans une plus grande liberté. Que s'ils étaient en ville, à mon sens en tout cas. Et de mon point de vue, rien ne vaut à mes yeux d'être loin de toutes les tentations consuméristes d'un système qui ne me convient pas et que je n'ai pas envie d'imposer ou de suggérer à mes enfants. Donc oui, c'est compliqué ici de ne pas pouvoir bien se payer, de ne pas pouvoir avoir les salaires et les aisances de partir en vacances. Et en même temps, j'ai conscience d'avoir choisi cette vie avec les avantages et les inconvénients qu'elle comporte.
Mais le Luberon, ça serait beaucoup plus facile de trouver de l'argent. Là, il y a de l'argent.
Il y a de l'argent dans le Luberon, mais on n'est pas du tout quand même sur les mêmes dynamiques. Alors c'est sûr, hein, là, il y a beaucoup plus de jeunes, il y a des développements économiques... avec des zones industrielles, des zones artisanales qui se créent, etc. Mais on n'est pas dans un environnement préservé comme ici. On n'est pas non plus dans des relations interpersonnelles aussi resserrées, parce que c'est ce que je trouve aussi intéressant pour évoluer et pour grandir, c'est qu'ici, on est peu. Donc, on se croise tout le temps. Donc, il faut toujours faire des efforts pour s'entendre et pour dépasser les obstacles, dépasser justement les différences. Alors que dans le Luberon, bah, y a quand même beaucoup plus de densité de population. Donc finalement, si on veut choisir d'arrêter de voir certaines personnes, bah, on arrête, on va voir d'autres. Et puis au niveau culturel et professionnel, il y a beaucoup de choses dans le Luberon, alors qu'ici, il y a presque tout à faire. Donc c'est aussi des enjeux complètement différents. Dans le Luberon, je me serais sentie aussi dans un territoire qui est vraiment moins préservé en termes d'agriculture, d'accès à des fermes pour se nourrir, d'accès à des rivières propres, etc. Donc, ça me va bien d'avoir développé ici. Même si je ne gagne pas beaucoup, c'est moins grave.